Matt, bonsoir. Révision du code minier congolais, 5 juristes congolais recommandent aux législateurs d'adopter un texte consensuel pour faciliter les investissements dans ce secteur. Selon eux, le secteur minier est régi par une superposition des textes légaux, certains étant même anticonstitutionnels. Par contre, la Chambre des mines exhorte le gouvernement congolais à maintenir le régime fiscal du code minier actuel et souligne que les changements unilatéraux auront un effet néfaste dans les secteurs. Comment analyser ces deux recommandations? C'est le thème de dialogue entre congolais de ce mercredi 1er avril 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître José Keta, avocat au barreau des Kisangani de Kinshasa Gombe. Il a participé à la rédaction de l'ouvrage intitulé « La révision du code minier congolais, quel avenir pour les investissements en RDC ?» Maître José, bonsoir.
Bonsoir.
Simon Thomas Wakou, vice-président national de la FEC en charge de mines. Monsieur Thomas Wakou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Dieudonné Tambwe, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques à la cellule technique des coordinations et des planifications minières. Il est aussi président du secrétariat technique de la commission de révision du code minier. Professeur Tambwe, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre à Kisangani dans la province orientale sur la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Controverse autour de la révision du code minier congolais. Ce débat a été relancé le week-end dernier avec la sortie de l'ouvrage intitulé « La révision du code minier congolais, quel avenir pour les investissements en RDC ?» présenté le week-end dernier à Bounia dans le district de l'Ituri. Cet ouvrage appelle les législateurs congolais à l'adoption d'un texte consensuel pour faciliter les investissements dans le domaine minier. Jean-Paul Bassila pour les détails.
L'ouvrage est préfacé par l'actuel ministre de l'économie, Modeste Bahati Lukwebo. Parmi les auteurs, Joseph Keta Orugno, avocat au barreau de Kinshasa, qui énumère une multitude des textes qui régissent encore les secteurs miniers en RDC.
Il y a un foisonnement de textes. Vous avez les codes miniers, vous avez les règlements miniers, vous avez les codes d'investissement, vous avez la loi de finances. Nous pensons qu'il y a une certaine confusion, surtout en ce qui concerne le domaine d'octroi des titres. Le secteur artisanal doit être réorganisé, éviter l'empiètement dans certaines concessions qui sont déjà concédées aux investisseurs privés.
Dans la salle, certains co-débatteurs ont à leur tour opposé aux auteurs de l'ouvrage des privilèges dont jouiraient des investisseurs du secteur minier en RDC en matière fiscale. Il s'agit entre autres des multiples exonérations qui s'étendent même à leurs fournisseurs. Joseph Keta Orugno suggère, et c'est dit dans l'ouvrage, la mise en place d'un code minier consensuel.
Il faut absolument un code consensuel. Il ne faudra pas que ce soit un code qui puisse prévoir beaucoup d'exonérations en faveur des investisseurs. Il ne faut pas les accabler non plus avec des taxes.
La révision du code minier congolais, quel avenir pour les investissements en RDC? C'est un ouvrage édité à Kinshasa. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Merci Jean-Paul Bassila pour tous ces détails. Maître José Keta, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kisangani de Kinshasa Gombe. Vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage intitulé « La révision du code minier congolais, quel avenir pour les investissements en RDC ?» En fait, en quelque sorte, les auteurs de cet ouvrage demandent la révision du code minier.
Exactement. On s'est posé la question, est-ce que c'est opportun de réviser ce code ou non. Et les auteurs ont estimé que pour l'instant c'est opportun de le réviser compte tenu de certaines dispositions que nous avons épinglées dans le livre.
Alors quelles sont ces dispositions pour les personnes qui n'ont pas encore lu cet ouvrage?
C'est surtout l'article 242 du code minier qui prévoit la clé de répartition de la redevance minière entre le pouvoir central et les provinces et les entités dans lesquelles le projet est installé. Alors, quand vous lisez la Constitution, à l'article, je crois, 175, sous réserve de la précision, je crois, 175, la Constitution parle de la retenue à la source de la redevance minière. Par contre, l'article 242, quand vous le lisez entre les lignes, prévoit plutôt la rétrocession. Et vous voyez déjà, entre la Constitution et les codes, déjà sur cette disposition, il y a un problème de constitutionnalité. Et les auteurs ont estimé que, notamment cet article-là, il faut le revoir et préciser clairement le principe et la modalité pratique en ce qui concerne notamment la redevance minière.
Alors, vous parlez des foisonnements des textes dans le secteur minier. Est-ce que ça pose problème?
Exactement, ça pose problème parce que j'ai proposé même une lecture horizontale des textes et non pas verticale. Vous avez, en matière minière, vous avez les codes. En droit, il y a un principe qui dit « specialia generalibus derogant », c'est-à-dire les lois spéciales dérogent aux lois générales. Les différents textes qu'on a cités, les codes miniers, les codes des investissements, la loi des finances, etc., quelle est la place du code minier par rapport à ces textes? Le code minier est considéré comme la loi spéciale. En principe, c'est ce code-là qui devrait s'appliquer en matière minière.
Est-ce que ça ne s'applique pas?
Ça s'applique, mais il y a certaines dispositions qui nécessitent une révision.
Alors, il n'y a que ces dispositions dont vous faites allusion qui doivent être révisées ou c'est tout le code minier qui doit être revu?
Donc, pas tous les codes. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions clés qu'il faut revoir. Et il y a aussi le problème, parce que si nous entrons dans la théorie générale, selon l'évolution en matière minière, vous aviez les textes qui ont précédé la loi de 2002, vous avez les régimes conventionnels. Dans les régimes conventionnels, c'est là où vous trouverez des conventions qui ont été signées et dans lesquelles, disons, les investisseurs bénéficiaient de beaucoup d'exonérations. Et ça ne pouvait pas arranger justement l'État. Parce que l'État, l'objectif, c'est quoi? C'est de maximiser les recettes. Et puis, dans une période-là, il y avait, je crois, la renégociation des contrats miniers, qu'on avait taxé des léonins, etc. Nous n'avons pas de solutions pratiques dans ce domaine. Donc, de ces régimes conventionnels, actuellement, la caractéristique du code de 2002, c'est un régime du droit commun avec un caractère exhaustif et exclusif. Caractère exhaustif, c'est-à-dire qu'il n'y a que les taxes et impôts qui sont prévus dans le code qui sont d'application et les autres n'en tiennent pas compte.
Alors, on a la Chambre des mines qui exhorte le gouvernement congolais à maintenir le régime fiscal du code minier actuel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Maintenir, j'ai donné la position. Donc, pour moi, pour nous ou les auteurs, c'est opportun de retoucher certains textes. Si on maintient dans toute leur disposition les codes, ce n'est pas notre point de vue.
La Chambre souligne que les changements unilatéraux auront un effet néfaste dans le secteur minier.
Ce n'est pas le changement unilatéral. Comme je vous avais dit, nous avons préconisé une révision consensuelle. Parce qu'il faut, en ce qui concerne la révision du code minier, c'est un vieux débat. Il y a eu plusieurs rencontres entre ce que nous appelons, il y a un trio, il y a l'État, vous avez les représentants de l'État, vous avez les représentants des investisseurs et les représentants des populations locales. Ces trios-là, c'est dans un jeu de gagnant-gagnant. Donc, il faudra maintenant qu'il y ait un code consensuel dans ce sens-là.
Parce que le code de 2002 n'était pas consensuel, selon vous?
Non, non.
Puisque vous demandez maintenant un code consensuel.
Consensuel dans le sens que nous sommes des doctrinaires, nous avons passé en revue quels sont les points de vue des investisseurs, quels sont les points de vue de l'État, et nous estimons que sur certains points, il faut trouver un consensus. Et là, ça sera le problème du législateur.
Merci, Maître José Keta. Simon Tomawaku, vous êtes vice-président national de la FEC en charge de mines. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de ces 5 juristes congolais qui recommandent aux législateurs d'adopter un texte consensuel pour faciliter les investissements dans le domaine, dans les secteurs miniers, qui propose au fait la révision du code minier?
Ben, écoutez, madame, déjà, dès que le gouvernement, au travers du ministère des Mines, a pris la décision de revoir le code minier, et je crois que et c'est pour cela que nous avons fait partie de cela, c'est que le ministre a préconisé qu'on le fasse d'une façon consensuelle entre les 3 parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, les secteurs miniers et le gouvernement. Donc, dès le départ, la retouche ou la révision du code minier, comme on peut le dire, a été faite dans l'esprit d'avoir un consensuel. Et ça équilibre tout le monde parce que à ce moment-là, tout le monde est d'accord sur le fait que, voilà, on s'accorde sur tel changement qu'il doit y avoir.
Mais la FEC souhaite que les régimes fiscaux douaniers actuels ne soient pas révisés.
Pourquoi c'est là? C'est tout simplement parce que le dernier atelier qu'il avait, en fait, le dernier atelier sur le régime fiscal qui devait se tenir, qui devait justement nous amener à un consensuel, n'a pas eu lieu. Et c'est là que, c'est pour ça qu'on s'est dit, s'il n'a pas lieu, que le gouvernement, de certaine manière, a pris une position unilatérale, alors à ce moment-là, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire, faites attention au changement du régime fiscal, parce que nous devons voir les exemples autour de nous. Et nous ne devons pas avoir l'exemple comme en Zambie, où les changements du régime fiscal font que les investisseurs quittent le pays, et ce sont les emplois qui sont qui sont arrêtés. Donc, c'est-à-dire, nous faisons attention. Pourquoi nous n'avons pas terminé ces différentes discussions d'une manière consensuelle comme nous avons commencé? C'est ça, c'est très important.
Mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas trouvé un consensus lors de vos différentes rencontres?
Écoutez, le code minier est une loi très importante pour notre pays. On ne peut pas seulement en une soirée ou en quelques jours trouver le consensus.
Vous avez eu quand même plusieurs discussions.
Nous avons eu plusieurs discussions. Nous avons eu quasiment, je peux compter, une année et demie de discussions. On avait pas seulement à discuter sur le régime fiscal, nous avons à discuter sur la responsabilité sociétale des entreprises, donc l'environnement. Nous avons à discuter sur les droits miniers, donc tout ce qui concerne les droits, la législation. Nous avons eu à discuter sur la fiscalité. Donc c'est un processus qui a eu du temps, et c'est tout à fait normal, et nous le saluons, parce que on ne peut pas discuter d'une loi qui est très importante pour le secteur, qui est le secteur de relance de l'économie de notre pays, qui est le secteur moteur pour le moment. Tout ce que nous voyons comme croissance que nous connaissons, c'est le secteur minier. Donc c'est une loi quand même qui va régir le secteur minier pour des années et des années. Donc il fallait prendre du temps pour arriver à avoir un consensus général sur tous les points.
Alors, selon vous, est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de revisiter ou de revoir le code minier?
La question ne se pose plus, parce que le processus a commencé en 2012. Donc, on ne veut pas causer la question de réviser. Non, la révision, la retouche du code minier a commencé en 2012. Parmi les raisons que mon ami d'à côté n'a pas citées, c'était, il y a d'abord le fait que la constitution de notre pays est venue après le code minier. Donc, forcément, le code minier doit s'aligner sur la loi fondamentale du pays. Et par exemple, juste pour vous donner un exemple, le ministre provincial de Mines ne se retrouve pas dans le code minier. Nous allons vers la décentralisation. Donc, il y a des choses qu'on devait absolument retoucher, et ce qui était normal. Mais dans la foulée, évidemment, il y avait aussi le fait que on dit que ce dont on attendait du secteur minier en termes de revenus de l'État n'était pas suffisant. Donc, il fallait aussi toucher le régime fiscal. Mais toucher le régime fiscal, c'est très sensible. C'est le moteur même du code minier. Il faut faire attention aux paramètres, il faut faire attention à l'environnement économique, il faut faire attention au cours des métaux. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte avant de toucher au régime fiscal, parce que ça fait un tout, et que ça, c'est ça qui rentre dans le modèle économique que les investisseurs appliquent pour dire, ok, est-ce que je vais investir dans ce pays ou pas? Donc c'est très important.
Alors, parmi les raisons pour lesquelles vous demandez c'est que le régime fiscal actuel ne soit pas révisé, vous dites par exemple que celui qui est en vigueur depuis 2002 ne commence à donner des effets qu'il y a peu de temps, vu que les premiers investissements n'ont commencé qu'en 2006.
Absolument. Oui, parce qu'on oublie souvent le fait de dire qu'on a eu un code minier en 2002. Cela ne veut pas dire que le code minier a commencé en 2002 exactement. C'est que les premiers investissements sous le code minier n'ont commencé qu'en 2006. Vous savez, de 2002 à 2006, aucun investisseur ne voulait venir parce qu'ils attendaient les élections qui devaient arriver, les premières élections démocratiques qui devaient arriver chez nous. Donc, c'est juste après les élections que, en fait, l'investissement minier a commencé. Et donc, quand on parle d'investissement dans le secteur minier, ça prend des années. L'effet de commencer à consommer, rien que commander les équipements pour les usines, ça vous prend déjà de 2 à 3 ans. Vous pouvez dire, il y a 3 ans de perdus qui sont déjà partis.
Et donc, cette loi, ce code actuel doit rester en vigueur.
Le code actuel, bon, n'eût été la révision imposée par du fait que c'est venu avant la Constitution, on devait le tester parce qu'il faut savoir évaluer. Vous prenez une loi, vous devez l'évaluer pour voir est-ce que ça donne ce que nous comptions cela. Est-ce que cela est fait? Vous pouvez, du moins, vous dites voilà, nous attendions à ce que le secteur minier produise autant. Voilà ce que la loi nous donne. Et à ce moment-là, vous dites non, il y a un problème, donc nous révisons. Tant que cela n'a pas été fait, c'est très difficile d'évaluer, de dire que le code n'a produit pas ses effets parce que on va commencer à payer l'impôt sur les bénéfices maintenant en 2015.
Merci, Monsieur Tomoaku. Je vous redonne la parole tout à l'heure, professeur Dieudonné Tamboué. Vous êtes coordonnateur adjoint en charge des questions techniques à la cellule technique des coordinations et des planifications minières. Vous êtes aussi président du secrétariat technique de la commission des révisions du code minier. Comment vous analyser ces deux recommandations de la Chambre des mines et des 4 juristes qui ont rédigé cet ouvrage sur l'opportunité de retoucher le code minier.
Merci beaucoup, madame. D'entrée de jeu, je dirais que rien jusque-là ne m'oppose aux deux interlocuteurs qui vont précéder, dans la mesure où pour le gouvernement, il a été question depuis le début d'entreprendre la démarche de la relecture du code, de sa retouche, de sa revue, de sa révision, dans un contexte qui mette tout le monde ensemble. Le gouvernement est pleinement conscient qu'un secteur aussi important que celui des mines, qui, je le crois, restera encore pendant quelque temps le moteur principal de la croissance économique de ce pays, ne peut pas être perturbé de n'importe quelle manière. Maintenant, est-ce qu'il est opportun de réviser ce code maintenant? Est-ce qu'il aurait fallu que l'on attendît un peu plus longtemps? Personnellement, rien dans le code minier de 2002 ne disait qu'il fallait attendre 10 ans. En réalité, c'était une lecture un peu biaisée que, malheureusement, beaucoup de compatriotes n'ont pas su relever le fait que ce code-là, on aurait pu changer à n'importe quel moment, on aurait même pu le changer en 2005. Mais simplement, il y a une clause de stabilité qui fait que les opérateurs pour lesquels le changement serait survenu dans l'entretemps et demeuraient dans le régime de stabilité pendant 10 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique qui était proposée, évidemment, aux investisseurs, compte tenu, bien entendu, des investissements importants qu'ils avaient apportés. Maintenant, c'est vrai, mes prédécesseurs ont épinglé déjà, c'est vrai, il y a eu une nouvelle constitution en 2006 qui a amené de nouveaux intervenants. Forcément, il fallait en tenir compte. Il y a un autre problème, c'est le problème de la gestion du domaine minier. La responsabilité de la gestion du domaine minier incombe à l'État. C'est au final l'État qui devra dire qu'est-ce qu'il a fait de son domaine minier. Alors, tous les titres que l'on peut donner sur ce domaine minier-là, il faut savoir comment ils se donnent. Il faut un certain niveau de contrôle. Et il faut voir, le gestionnaire du domaine minier doit se dire, OK, on extrait de chez moi des ressources, des commodités. Est-ce que la transaction qui consiste à les extraire d'ici, à les exporter, est-ce que cette transaction-là correspond à une rémunération juste, sachant qu'il s'agit là de ressources qui sont par définition épuisables, qui ne vont pas se renouveler, en tout cas sur l'ère d'une centaine de générations d'hommes. Donc il faut s'assurer de cela. Alors qu'est-ce que nous disons? Nous disons que certes ce code de 2002, nous on n'en disconvient pas, il a apporté des choses, il a ramené une vie dans le secteur et dans l'activité minière, mais est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer? Est-ce qu'il faut attendre très longtemps, sachant que les techniques d'aujourd'hui sont beaucoup plus rapides et parfois, peuvent emporter des éléments de destruction aussi. Ça, c'est l'environnement, parce que nous tenons compte aussi de l'environnement. Est-ce qu'on ne doit pas revisiter un peu la responsabilité sociétale des entreprises? Est-ce qu'on ne doit pas revoir aussi dans cette fiscalité-là?
Parce que dans le code minier de 2002, on n'en a pas tenu compte.
On en a tenu compte. C'était une nouveauté, en fait, par rapport à tout le tissu des législations minières qui avaient précédé. C'est vrai que c'est en 2002 qu'on a ramené véritablement dans le cadre légal qui gérait le secteur des mines la question environnementale. Et c'est presque normal, parce que dans le monde entier, il y a une évolution qui s'est faite de plus en plus, la prise en compte de ce qu'on appellerait la responsabilité sociétale et environnementale, parce que vous extrayez des ressources d'un coin où il y a des personnes qui vivent alentour, et c'est vrai qu'il peut y avoir des destructions par rapport à l'environnement, il peut y avoir des choses. Il faut s'assurer que l'exploitation se fait de manière à ce que, avant, c'est-à-dire pendant la recherche, pendant l'exploitation et après l'exploitation, on lègue un héritage environnemental qui soit plus ou moins comparable à celui qu'on avait touché. Ça veut dire que, et c'est l'un des éléments qui ont compté, nous avons demandé, nous avons cherché à ce que les opérateurs miniers nous aident à réfléchir sur une manière de repréciser la responsabilité sociale des entreprises. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et cela à l'égard des communautés qui sont affectés par les projets miniers parce que ce sont les communautés qui sont alentour. Nous avons, et c'est peut-être ça aussi la question qui nous a légèrement peut-être divisé avec nos amis de la corporation minière, c'est est-ce qu'il n'y a pas un certain déséquilibre? Est-ce qu'on ne peut pas y remédier? Parce qu'encore une fois, je le dis, dans un contexte où le temps est en perpétuelle accélération, il y a intérêt parfois à amener des modèles correcteurs beaucoup plus tôt qu'on le ferait dans un système qui est totalement stable et qui ne bouge pas.
Merci, professeur Tambay. Je vous donne la parole tout à l'heure. Maître José Keta, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Dino Kalunga depuis Lubumbashi au Katanga. Chaque fois, l'État congolais mettait des révisités le code minier au Congo. Et j'aimerais savoir quel est l'impact sur le plan social, car nous constatons avec un article ici au Katanga, malgré le boom minier, les jeunes coupent toujours dans le chômage.
Réaction. Quel pourrait être l'impact de la révision de ce code minier sur le plan social?
Bon, comme vous le savez, tout projet, avant d'être admis, il y a ce qu'on appelle l'étude de l'impact environnemental et l'étude de l'impact économique. Bon, la question de l'auditeur tout à l'heure, il s'inquiète pour les cas, disons, de chômage, etc. Mais lorsqu'un bon projet, un investisseur, quand il vient, il doit avoir une étude de l'impact économique, c'est-à-dire sur le plan, par exemple, de la main-d'œuvre, de l'emploi. On doit privilégier, par exemple, la main-d'œuvre nationale. Et tout cela, on doit en tenir compte. Donc, tout projet doit contenir justement les deux études-là. Et c'est pour voir justement la part de, notamment, de communautés locales. Bon, lui, il parle du cas de Lubumbashi. Dans le livre, nous avons pris le cas d'un investisseur qui est arrivé, Kibali, qui est dans la province orientale. Tout ce qu'ils ont investi, donc leur investissement s'est accompagné des avantages, de très grands avantages en faveur de la population. Je ne vais pas mener les documents, sinon je pouvais vous donner avec des détails. On a construit des hôpitaux, on a construit des écoles, il y a des contrats de sous-traitance. Et notamment dans les contrats de sous-traitance, on privilégie notamment les locaux. Donc, quand vous avez des contrats pour fourniture, je ne sais pas, des denrées alimentaires, etc., on ne peut pas prendre un étranger pour fournir, disons, à la société Kibali. Et ça, ça donne de l'emploi pour les autochtones. On a construit des hôpitaux, etc. Donc,
ça, c'est pour le cas de Kibali seulement.
Pour le cas de Kibali. Bon, je ne connais pas le cas de Lubumbashi, comme il dit, mais notamment dans le livre, parce que nous sommes dans le livre, nous avons fait une étude exhaustive et on a pu étudier tous les avantages qui ont été octroyés aux populations locales. Donc, l'auditeur, en principe, dans chaque projet, on devrait avoir un impact social qui devrait être visible.
Alors, le professeur Tambay, tout à l'heure, a parlé d'un code minier déséquilibré. Partagez son avis, le code actuel.
Déséquilibré par rapport à...
par rapport à certains avantages que la population locale doit bénéficier.
Bon, je ne pense pas. C'est pour cela que nous demandons qu'on puisse réviser les codes. Et beaucoup d'efforts ont été faits, je crois, de part et d'autre, de part du gouvernement, de part des investisseurs et de part de la société civile. Et quand vous lisez, dans le livre, une fois de plus, nous avons pu passer en revue tous ces travaux-là, et il y a, le mot d'ordre, c'est de trouver un consensus pour, disons, équilibrer les avantages des uns des autres. Moi, ce n'est pas déséquilibré, mais dans le projet des révisions, je pense qu'on cherche un équilibre.
Merci Maître José, c'est mon tomahawk qu'on va prendre aussi pour vous, cette réaction qui nous vient de Kolwezi, toujours au Katanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga. Je pense que le manque de consensus dans l'élaboration du texte est à la base des conflits dans notre société. Comment peut-on maintenir un texte dont les avantages sont plus du côté des investisseurs étrangers qu'aux Congolais ou les nationaux?
C'est mon tomahawk.
Merci madame. Merci pour cette réflexion. Mais quand on dit, et c'est ça justement la perception, on dit comment peut-on maintenir un code dont les avantages n'y a que, ça va que les investisseurs. Est-ce qu'on a prouvé cela? Est-ce qu'on a fait une évaluation exhaustive du code de 2002? Non, on n'a pas fait. Et comme je disais tout à l'heure, je reprends, les investisseurs ou les investissements ont commencé en 2006 avec une période, avec deux années de période morte à cause de la crise financière de 89 à 2008-2009 plutôt. Et maintenant que ça commence à produire, on veut changer sans avoir fait une évaluation exhaustive. Comment peut-on dire sans cela? Si vous me prouvez aujourd'hui que non, vraiment, voilà, les investisseurs tirent, je ne sais pas moi, à 80% des avantages de l'État que 20%, je suis tout à fait d'accord, il n'y a même plus à discuter. Mais tant que cela n'a pas été fait, tant que cela n'a pas été prouvé, c'est très difficile de changer une loi qui commence à d'abord une loi qui vous attirait beaucoup des investissements et une loi qui commence maintenant à faire en sorte que les investissements ont été amortis, les remboursements des prêts, parce que ça prend du temps aussi, c'est fini, et maintenant on commence à payer l'impôt sur des bénéfices en sus des taxes et impôts qu'on paye déjà.
Alors, on a suivi le professeur Tamboué qui a parlé des petites failles hein, dans l'actuel code minier. Mm-hmm. Il a même parlé de déséquilibre. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça que je veux. Qu'on me demande sur le déséquilibre, à ce moment-là, on peut discuter. Si le déséquilibre est montré sur place, on dit ok, d'accord, j'accepte ce déséquilibre, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer. Mais tant qu'on n'a pas montré le déséquilibre, c'est difficile de discuter et de pouvoir anticiper sur quelque chose qui n'est pas démontré. Et c'est là le point que je fais. Je crois que là où nous avons raté, c'est que.
Mais il y a les populations locales qui se plaignent elles-mêmes.
Les populations locales. Je vous en prends, madame, qu'en 2006, quand on a commencé, moi c'était la première fois que j'allais à Kolwezi, c'était une ville morte. Aujourd'hui, le secteur minier au Katanga, puisqu'on parle du Katanga, aujourd'hui, le secteur minier emploie au moins 85% du travail formel. Je crois que les gens attendent trop du secteur minier. Le secteur minier ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. D'accord? Le secteur minier emploie un certain nombre de gens et en crée d'autres. Aujourd'hui, par exemple, un des consensus qu'on a obtenu pour le nouveau code minier, c'est d'inclure la sous-traitance. Voilà, la sous-traitance congolaise ou le local content, comme on appelle ça, va créer d'emplois et donc des emplois qu'on appelle directs. Mais les emplois indirects, les emplois directs créés par les entreprises minières, aujourd'hui, sans ce secteur-là, 85% de la population du Katanga sera au chômage. Donc, on attend un peu trop du secteur parce qu'on croit que le secteur minier doit absolument résorber complètement le chômage.
Estimez que tout le monde en tire profit, quoi, que ce soit la population locale, les investisseurs ou le gouvernement?
Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne dis pas que le secteur minier résout tous les problèmes. Le secteur minier, c'est de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, et c'est pour ça que c'est important aussi pour notre code minier même celui qu'on va retoucher ou réviser, le point n'est pas là. Je crois que le plus important, c'est d'abord qu'on s'assure que ce code soit vulgarisé, très bien compris par tout le monde, et que ça soit appliqué aussi par ceux qui vont gérer ce code-là. Souvent, ce sont ces deux points où, si on a eu du mal à partir du code de 2002, ces deux points-là n'ont pas été bien maîtrisés. Merci. Et ça fait qu'on ne voit pas les résultats escomptés.
Merci. Professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Gilles César Mazaleu, depuis Kisangani. La RDC est la première pour la proposition, l'adoption et la promulgation des lois. Ces lois créées pour favoriser une petite partie au détriment de la majorité. Il se pose aussi problème au niveau de l'applicabilité de ces lois, parce qu'il n'y a pas une institution pour poursuivre l'applicabilité de ces lois.
Professeur.
Oui, bon, je crois qu'il est exactement dans la continuité de ce que disait M. Toumarakou. En gros, l'intervenant dit que nous sommes champions dans
la promulgation
des lois et leur promulgation.
Mais il n'y a pas de suivi.
Et
ces lois profitent à une petite catégorie, à une catégorie de personnes.
Bon, ça c'est une opinion qui s'exprime. Je la respecte, mais je ne la fais pas mienne. Je pense que, parce qu'il faut revenir au débat, hein, ici il s'agit de revisiter un code minier. Et en l'occurrence, je veux que ce soit clair en fait. Je ne dis pas que la loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier n'a pas fait des choses utiles et des choses bonnes. Je suis en train de dire que elle a une histoire, cette loi. Elle est arrivée probablement à un moment où il y avait un chaos certain dans le secteur où l'activité était morte. Je suis tout à fait d'accord avec M. Toumarakou. C'est vrai qu'il y a des villes qui étaient des villes fantômes il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a une activité absolument visible qui est là. Mais ce que je dis, c'est que il y a quelques années, effectivement, il y avait un problème dans ce pays. Il y avait un problème sécuritaire. Je ne pense pas que ce problème sécuritaire ait prévalu au même niveau au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans, 13 ans bientôt après, n'est-ce pas, la promulgation du code minier. Je veux dire que la perception risque qu'il y avait sur ce pays et qui faisait que les capitaux, les investissements qui pourraient venir dans un secteur comme celui des mines préféraient aller plutôt ailleurs, en Zambie, en Mauritanie, n'importe où, plutôt qu'en République démocratique du Congo. Maintenant, si nous partons simplement, rêvons un peu, disons-nous que, admettons un petit moment que les choses aient changé. S'il y a un léger mieux qui s'est produit dans l'entretemps, ça veut dire que tout naturellement, les modèles économiques qui ont été invoqués en ce temps-là, et qui ont permis de faire une fiscalité, on va dire, qui soit, nous l'avons voulu ainsi, hein, nous avons négocié, sachant bien que c'était extrêmement incitatif, n'est-ce pas, assez favorable pour que les investissements reviennent. Mais aujourd'hui, nous disons, bon, nous avons rétabli, les quelques équilibres sécuritaires, le consensus politique, nous sommes en démocratie. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des moyens de correction? Et là, je ne crois même pas que ce soit là le problème. Nous disons, je pense que tous, sans peur d'être contredit, nous disons oui, certainement qu'il faut faire des choses. Alors, fallait-il les faire de manière consensuelle? Le gouvernement congolais a dit oui, nous voulons que ce soit consensuel parce que aucune des parties prenantes, on va dire, dans l'activité minière, que ce soit la société civile, que ce soit la communauté des miniers ou les mining, que ce soit le gouvernement, aucun de nous ne pourrait se dire « Ok, je détiens la vérité absolue par rapport à cela ». Maintenant, est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour interroger un travail afin de l'améliorer? Ou est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs qui disent que oui, ok, ça marche bien, mais est-ce que ce n'est pas le moment de revisiter? J'aimerais dire qu'en réalité, ce projet de code, son intitulé exact aurait pu être projet, n'est-ce pas, de loi portant modification et on va dire complément. Hein, ça pourrait être cela. Pourquoi ? Parce qu'en gros, le code de 2002 ne bouge pas. Mais il y a des retouches, il y a des recherches d'équilibre, et tout cela est proposé. Maintenant, je me dis...
Mais c'est que je sache, le projet est déjà déposé à l'Assemblée.
À ce que vous sachiez, vous avez raison, oui, on a déposé le projet à l'Assemblée, mais à ce que je sache...
On va trouver un consensus avec les autres partis.
Que je vous explique peut-être l'historique de tout ceci. Vous vous souviendrez, le président de la République, chef
brièvement.
De l'État... Oui, chef de l'État, en 2011, au cours de son discours inaugural d'investiture, a clairement, n'est-ce pas, mis le doigt sur la question, on va dire, du secteur minier et des attentes, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réfléchir un peu. Sur ces entrefaites, le gouvernement a récupéré la réflexion. Le ministre des Mines a été investi d'une mission de mettre sur pied, n'est-ce pas, une équipe d'experts qui allait relire et regarder comment les choses se passaient concrètement. Le ministre des Mines a mis une équipe d'experts qui ont travaillé, auxquels se sont ajoutés des experts du gouvernement, qui ont produit un premier document, une première mouture. Sur cette première mouture-là, nous avons été ensemble. Nous avons invité, le gouvernement a invité, la société civile ainsi que les miniers. Ils sont venus, nous avons travaillé ensemble, et en réalité, ce que peut-être... Nous avons marché pendant plus d'une année et demie avec compromis. Mais c'est vrai, bon, j'étais en train de le dire tout à l'heure, peut-être qu'il y a une marche qui a été ratée sur cet escalier-là. Maintenant, faut-il à cause de cette marche-là dire que voilà, donc tout l'escalier est à refaire, ou bien pouvons-nous encore nous mettre ensemble et nous dire, essayons de refaire cette marche-là. Voilà ce que moi je propose, et ça, c'est une recherche de consensus.
Merci, professeur Tambou et maître José Keta. Alors, vous suggérez un code minier consensuel pour résoudre les problèmes des multiplicités des taxes régissant les secteurs miniers congolais. Vous dites qu'il faut absolument un code minier consensuel qui ne puisse pas accorder beaucoup d'exonérations aux investisseurs, et il ne faut pas qu'on puisse les accabler non plus avec des taxes.
Tout à fait. Je confirme. Pour illustrer cela, je peux prendre l'exemple de la TVA, notamment, hein, du côté des investisseurs. Certains investisseurs estiment que c'est une taxe qu'ils ne devraient pas payer, parce que la TVA a remplacé l'ICA, l'impôt sur le chiffre d'affaires. Et les entreprises minières payaient à ce moment-là 5%. Aujourd'hui, ils sont en train de payer 16% de TVA. Alors, ils estiment que, en vertu notamment de la clause de stabilité dont mon ami d'à côté a parlé, on aurait pu les épargner de cette modification-là, pour ceux qui ont déjà les titres avec eux, en vertu de la clause de stabilité, parce que c'est une garantie. Bon, multiplicité de taxes, dans le livre, je ne peux pas les détailler. Nous avons donné d'une manière, disons, claire, en faisant un peu du droit comparé. Parce que j'ai donné l'exemple de Kibali, vous avez l'investisseur Randgold qui est là-bas et qui est également par exemple au Mali et en Côte d'Ivoire. Et dans le livre, nous avons pu épingler certains points positifs concernant cette clause de stabilité. En Côte d'Ivoire par exemple, vous avez la durée de la clause de stabilité de 10 ans, mais on donne également la possibilité aux investisseurs, ce qu'on appelle le droit d'option. C'est-à-dire lorsqu'il y a une législation pendant la période de stabilité, une nouvelle législation, ils ont le droit d'option de choisir la législation qui leur est favorable. Ça, ce sont des dispositions juridiques qui sont prévues dans certains pays pour, disons, attirer les investisseurs. Donc, en ce qui concerne notre pays, multiplicité de taxes, je dirais non, c'est un problème technique. Il faut que les experts puissent voir ce qui est le juste milieu pour que l'État non plus ne puisse pas être lésé. Donc, c'est ce jeu d'équilibre-là qui est important. Moi, je ne dirais pas qu'il y a multiplicité de taxes. Le code minier de 2002, il est bon, mais il y a certaines dispositions, notamment la TVA dont je viens de vous parler, il y a certaines dispositions sur lesquelles il faut tabler.
Parce que le code, plutôt, le projet de loi est déjà à l'Assemblée nationale.
Mais c'est aux législateurs de voir. Donc, ce qu'ils pourront décider, c'est ce qui va passer. Donc, c'est un outil que les auteurs ont voulu mettre à la disposition, plus spécifiquement, des législateurs, pour qu'ils puissent s'en imprégner et voir ce qui est nécessaire, disons, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et à de choisir. Parce qu'en dernier ressort, c'est le législateur qui a le dernier mot. Donc nous avons fait dans les livres un peu du droit comparé, qui est intéressant et qui peut vraiment inspirer les législateurs.
Merci, Maître José Keita. Simon Tomahawk, il y a cet auditeur, Grégoire Mombi, qui nous écrit depuis la Belgique, qui dit ceci. La position de la Chambre des mines n'est pas modifier le régime fiscal doit être rejetée, car ce type d'exploitation et ce régime fiscal qui accorde exagérément des exonérations aux investisseurs étrangers, c'est encore une question qui revient, je l'ai posée tout à l'heure, approprie aussi bien les générations présentes que futures, mais surtout aussi le gouvernement.
Ben, madame, comme vous dites, on a déjà posé mille fois cette question. D'abord, il n'y a pas d'exonération. Justement, on est passé des régimes conventionnels au code minier pour mettre tout le monde sur la même fiscalité, la même taxation, les mêmes régimes. Donc, c'est un régime spécial du code minier, c'est vrai, mais il n'y a pas d'exonération. C'est ça le grand changement. Celui qui a écrit de la Belgique devait un peu corriger, bien lire le code minier. Il n'y a pas d'exonération comme on a connu avant. Justement, c'est pour pouvoir maximiser les revenus de l'État.
Vous ajoutez un mot, maître,
oui, je veux continuer la parole. Pour compléter, justement, lorsqu'on dit qu'il y a des dispositions en faveur des investisseurs, non. Les législateurs, quand vous lisez les dispositions abrogatoires du Code minier, on vous dit, en ce qui concerne l'ordonnance loi numéro 81/013 du 2 avril portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, elle coexistera avec le présent code pour les conventions minières uniquement en vue de rencontrer l'esprit et la lettre des clauses de stabilité prévues dans ces nombreuses conventions. Donc, le législateur a bien fait son travail. Il a dit la loi de 81 va coexister avec le code de 2002. Donc, il ne faut pas préjudicer. Dans la loi de 81, c'était le régime conventionnel où on parle, il y avait beaucoup d'exonérations en faveur des investisseurs. Et le code de 2002 a essayé de corriger, justement, pour voir également la part de l'État et en prévoyant certaines taxes, parce que l'État doit maximiser ses recettes. Alors, donc, on trouve un équilibre.
Alors, vous allez devoir aussi conclure, Maître José Keita. Simon Tomahawk a parlé de la vulgarisation et la vulgarisation du code minier. C'est aussi un problème, ça. Il y a trop de confusion dans ce code, que les gens ne comprennent pas trop.
Mais oui, la vulgarisation, pour bien vulgariser, moi, je parlais du foisonnement des textes. C'est ça le point fort du livre. Il faut... quand le législateur va tabler sur ça, il faut que les choses soient claires, notamment que la loi, par exemple, de 81 soit abrogée et que nous ayons un code qui puisse fixer les dispositions qui sont claires. Et pour la préoccupation des populations locales, l'article 242, c'est une grande préoccupation qui dit la rétrocession de ces 40% pour les provinces et les entités. Il faut que ces dispositions soient d'une application
merci,
rigoureuse.
Maître José Keita, Monsieur Tomahawk, vous allez aussi devoir conclure. La loi est déjà déposée. Vous demandez à ce que le régime fiscal ne soit pas révisé. Qu'est-ce que vous allez faire?
Non, nous voulons justement tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la sensibilité du code repose sur le régime fiscal. Et c'est très important et c'est dommage que nous ne sommes pas arrivés à un consensus total qu'on aurait pu avoir lors du dernier atelier, parce que on peut se mettre d'accord sur toutes les autres choses, mais sans le régime fiscal, on ne peut pas dire qu'on a un code nouveau. Donc c'est très important, c'est une loi de notre pays, c'est le moteur de relance de notre économie, donc c'est capital qu'on puisse arriver à harmoniser nos vues pour que demain nous ne puissions pas regretter les décisions qu'on va prendre aujourd'hui.
Merci Monsieur Tomahawk, ou Professeur Tamboué, à moi en guise de conclusion.
Oui, je crois que pour moi,
C'est vrai, s'il y a des choses qui peuvent être corrigées, de mon point de vue, je crois que dans le débat citoyen, cela pourra se faire même au niveau du Parlement. Donc ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Il y a juste quelques détails qui nous ont peut-être jusque-là divisés.
Merci.
Mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas toujours atteindre le consensus à 100%.
Merci, professeur. Je suis obligée de vous arrêter. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.